RFI 7h30, à Paris et Niamey 6h30 à Ouagadougou. Édouard Dupénoat, la CDAO flèche la direction de la sortie aux trois juntes sahéliennes.
Passé le 29 janvier, vous aurez 6 mois pour vous rétracter. L'organisation ouest-africaine réunie hier à Abuja. Elle annonce aussi un futur tribunal spécial sur la Gambie pour juger les exactions du régime Yahya Jammeh. Le témoignage dans ce journal de Marama Lamarana Diallo. Elle est guinéenne, journaliste, mais elle s'exprime en tant qu'épouse et mère esselée. Elle est la femme d'Habib Marwan Camara, journaliste également, enlevée à côté de Conakry. Vous aussi, dit-elle au général Doumbouya, vous aussi, vous avez des enfants. Au Sénégal, le Premier ministre rouvre les débats sur l'abrogation de la loi d'amnistie. Il promet en fait justice pour les victimes des manifestations réprimées des 3 dernières années. Tout cela couvert donc par la loi votée in extremis avant la présidentielle. Duel rhétorique, mais duel quand même. Jean-Louis Billon fait entendre ses volontés présidentielles pour les couleurs du PDCI en Côte d'Ivoire. Qu'on vienne me défier, lui dit Tidiane Thiam, le patron de la formation. À Marseille, les téléphones qui sonnent dans le vide en appelant Mayotte. Chido laisse un archipel exsangue, injoignable. Les autorités redoutent peut-être des milliers de morts.
Enfin, le dossier de ce journal nous emmène en Afrique du Sud.
Pour la journée de la réconciliation, c'est aujourd'hui 16 décembre, avec ses militants tiraillés entre l'exigence d'une société équitable et la patience qu'ils savent être impérative.
Les chefs
d'État de la CDAO ménagent une ultime porte de sortie au trio frondeur Burkina, Mali, Niger, parmi les conclusions de leur sommet d'hier à Abuja. Celui d'aménager un délai de 6 mois qui commencera le 29 janvier, date à laquelle le départ des 3 pays sahéliens sera définitif. Cette période de 6 mois sera celle d'une possible rétractation, alors même que les principaux concernés répètent que ce départ est irréversible. RFI Abuja, Moïse Gomis.
C'est Omar Aliou Touré qui a exprimé à haute voix la position des leaders de la CDAO vis-à-vis du Burkina Faso, Mali et Niger. D'un ton grave et solennel, le président de la commission a ponctué une séquence longue de presque 11 mois, une séquence où les juntes respectives de ces 3 pays semblaient dicter le tempo, car jouant à chaque fois un coup d'avance. En pesant chaque mot, la conférence des chefs d'État de la CDAO a repris la main, car c'est bien la commission depuis Abuja qui va organiser et conduire le détricotage des liens de la communauté ouest-africaine avec 3 de ses États membres fondateurs. Tout en retenue, Bola Ahmed Tinubu a insisté à chacune de ses prises de parole sur la nécessité d'unité et de solidarité. Le chef d'État nigérian a réclamé une standing ovation pour son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, qu'il a surnommé Mr. Democracy pour son dernier sommet. En revanche, aucun mot, aucun message n'a été prononcé à l'endroit de l'ex-président Mohamed Bazoum, toujours privé de sa liberté de mouvement à Niamey, malgré une décision en sa faveur de la Cour de justice de la CDAO. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Autre annonce de taille lors de ce sommet, celle d'approuver la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous l'ère de Yahya Jammeh. Une demande réclamée par les victimes de sa dictature pratiquement dès son départ en 2017. Après que la CDAO l'avait contraint de reconnaître sa défaite à la présidentielle, l'ex-président gambien qui vit aujourd'hui en Guinée équatoriale.
Mais cela fait bientôt 2 semaines qu'Habib Marwan Camara a été enlevé en Guinée et son épouse prend la plume.
Le journaliste, fondateur du site Le Révélateur 224, enlevé en banlieue de Conakry. Alors qu'il se rendait à un rendez-vous, de nombreux témoins mettent en cause des gendarmes qui l'ont extrait de son véhicule avant de l'emmener vers une destination inconnue. Marama Lamarana Diallo est journaliste elle-même. Elle est l'épouse d'Habib Marwan Camara et elle écrit donc directement au général Doumbouya en tant que militaire et père de famille lui-même. Sidi Yansané a pu la joindre.
Je n'ai d'autre choix que de faire recours à vous pour avoir des nouvelles de mon cher époux. Le ton de sa lettre est digne, mais ne cache pas la détresse de Mariama Lamarana Diallo, car après la disparition de son mari, la journaliste et épouse d'Habib Marwan Camara s'est rendue chez les procureurs, à la police, la gendarmerie, dans l'espoir de trouver une oreille attentive. Elle interpelle désormais Mamadi Doumbouya, président de la transition et général d'armée, car ce sont des gendarmes qui ont enlevé son compagnon.
Ce ne sont pas des assaillants, ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs, ce sont des Guinéens comme moi. La meilleure manière, ça aurait été de procéder normalement après une plainte et après la DPJ, c'est de transférer le dossier devant un tribunal pour qu'il reprenne devant ses faits.
Actuellement enceinte, Mariama Lamarana Diallo interpelle également le président en tant que père de famille. Vous êtes un époux et un père aussi. Je suis confrontée à la peine de mes enfants, se désole-t-elle. Son aîné de 6 ans reste inconsolable.
C'est lui mon cas le plus difficile parce qu'à tout moment, il me demande, maman, pourquoi papa ne rentre pas à la maison? Ton papa a voyagé, Mais pourquoi il ne m'appelle pas au téléphone comme d'habitude? Je lui dis, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc j'essaie un peu de détourner son attention avec ça, mais je ne pense pas pouvoir tenir vraiment longtemps.
Mariama Lamarana Diallo n'a toujours pas reçu de réponse du président ou du gouvernement. Elle n'exclut pas de porter cette nouvelle affaire de kidnapping au niveau international.
Sidi Yansané, le Premier ministre sénégalais formule de nouveau une promesse de justice aux lourdes conséquences juridiques. Ousmane Sonko promet toute la lumière judiciaire sur les répressions des manifestations entre 2021 et 2024, sous Macky Sall donc. Les commanditaires répondront de leurs actes, dit-il, une annonce qui sous-entend qu'il faudra abroger d'abord la loi d'amnistie votée à la toute fin du mandat de l'ex-président. La procédure s'annonce complexe, mais le collectif des familles des victimes laisse tout de même entendre sa satisfaction. Son président Babacar Seye avec Juliette Dubois.
On avait eu à écrire au président de la République dès le début pour lui faire part de notre démarche. Et nous encourageons l'État du Sénégal à aller dans ce sens, parce qu'il faut que justice soit rendue, il faut qu'une enquête soit menée et que les responsabilités soient situées. Il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup souffert des atrocités de Macky Sall, et je crois que c'est une nécessité pour la reconstruction du pays, c'est une nécessité pour une justice équitable. Nous avons besoin d'une justice qui répare, d'une justice qui réconcilie et d'une justice qui apaise. Le Sénégal est signataire du traité de Rome. La Cour pénale internationale ne va jamais pardonner au Sénégal les crimes de sang qui ont été commis par le régime de Macky Sall. Eux, ils le savent très bien. Pourquoi il a voulu signer une loi d'amnistie à la veille de son départ? C'est parce que quelque part, il a compris les enjeux. Cette amnistie ne peut pas mettre aux oubliettes tous ces crimes de sang. Il faudra le plus rapidement possible abroger la loi et puis déclencher le processus de mandat d'arrêt international. Il faut ça. Il faut aller vite parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui s'est passé.
Babacar Seye, président du collectif des familles des victimes au Sénégal.
À moins d'un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les appétits politiques s'aiguisent déjà au PDCI-RDA.
En témoigne en effet ce début de joute verbale entre deux figures du parti d'opposition. Jean-Louis Billon, l'ancien ministre du Commerce, qui assure être le mieux outillé pour mener sa formation à la victoire en octobre prochain, mieux outillé en tout cas, que Tidiane Thiam, pourtant président du PDCI, et qui n'entend évidemment pas s'en laisser compter, Benoît Almeras.
Depuis l'annonce de sa candidature, Jean-Louis Billon multiplie les sorties au point d'être convoqué devant le conseil de discipline du PDCI. Dernier épisode en date, une interview à la chaîne NCI. L'homme d'affaires juge que le patron de son parti ne peut pas gagner la présidentielle. Principal argument, Tidiane Thiam est resté loin du pays pendant 22 ans.
Quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale.
Dès le lendemain, le président du PDCI réplique sur sa chaîne YouTube.
Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. C'est un concours de résultats.
Tidiane Thiam qui assure aussi ne pas craindre la concurrence.
J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention, à venir m'affronter et je les battrai.
La convention du parti doit départager les candidats. Sa date n'est pas encore fixée. Pour le politologue Geoffroy Julien Kouao, Jean-Louis Billon n'est pas favori.
S'il veut vraiment la bénédiction des militants du PDCI, il lui faut ratisser extrêmement large et avoir surtout des soutiens au niveau du bureau politique, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Le bureau politique du PDCI qui ne s'est pas réuni depuis l'élection de Tidiane Thiam à la tête du parti il y a un an. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Il est 6h39 à Abidjan. Les autorités françaises redoutent une hécatombe sur le département de Mayotte, près de 48 heures ce matin après le passage de Chido. Plusieurs centaines, voire quelques milliers de morts, c'est ce que disait hier le préfet du département chez nos confrères de La Première. L'alerte rouge est levée, les tout premiers secours commencent à arriver par voie aérienne. Un avion de la sécurité civile a pu se poser hier en milieu d'après-midi avec 3 tonnes de matériel à bord et 17 personnels de secours. Les réseaux de communication sont en revanche toujours très perturbés. Il est presque impossible de joindre des pans entiers de l'archipel, de quoi rendre l'attente insupportable pour toute la diaspora mahoraise et comorienne à l'étranger. Elle est particulièrement nombreuse par exemple à Marseille, grande ville du sud de la France. Mohamed Itrisso y est le président de l'association comorienne Ouchababi.
Le réseau n'est pas bon, donc depuis hier, on n'arrive à avoir personne sur place. Et c'est ça qui fait le plus peur en fait, de pas avoir de nouvelles. Donc voilà, on est en attente aussi de pouvoir renouer le contact et à partir de là, en fonction des besoins, mais il y en aura un peu de partout. On sait que oui, les États ils vont mettre des choses en place et il ne faut pas qu'on on fasse la même chose qu'eux et qu'on touche un autre public qu'eux, peut-être qu'ils vont pas toucher. Il y a les grandes villes, mais il y a aussi ceux qui sont dans les coins perdus. C'est surtout eux qu'on essaye de toucher, nous. Parce que c'est pas la première fois, en tout cas, qu'on essaye en tout cas de donner un coup de main. On n'anticipe pas les pouvoirs publics. Moi, je pense qu'ils font pas les choses correctement. C'est pas des priorités de base d'anticiper. C'est des îles, donc ils sont vraiment confrontés à la colère de la météo quand la météo se décide, quoi.
Mohamed Itrisso, joint par Sophie Bourlet.
L'Afrique du Sud célèbre en ce 16 décembre la journée de la réconciliation comme un renversement de l'histoire coloniale.
Et c'est le dossier de ce journal, pour voir comment ce jour, ce 16 décembre, a été transformé en journée d'unité nationale. Elle ne s'appelle journée de la réconciliation que depuis 95, un an après la fin de l'apartheid. À l'époque, l'Afrique du Sud caressait l'espoir d'un très puissant renouveau démocratique et égalitaire. Mais aujourd'hui, en 2024, alors que les inégalités sont encore béantes, que l'accès aux terres reste très complexe pour les populations noires, la petite fille de Nelson Mandela se rend compte de l'immensité du travail qui reste à accomplir. Valentin Hugues a pu la rencontrer.
Dileka Mandela nous donne rendez-vous dans un restaurant au nord de Johannesburg. Pour elle, ce 16 décembre, c'est un jour qui célèbre le pardon accordé par son grand-père.
Mon grand-père a choisi de pardonner ceux qui l'ont emprisonné, qui l'ont empêché de voir grandir son fils, mon père. Il a choisi la réconciliation.
En 1995, moins d'un an après son élection, la commission Vérité et Réconciliation a été créée. L'objectif est de permettre aux victimes de témoigner de la violence de l'apartheid.
Même avec le travail de cette commission, toute la vérité n'a pas été dite. Aujourd'hui, nous sommes très loin de la réconciliation. Et quand on exprime une certaine colère, on nous parle de la nation arc-en-ciel, comme si finalement, nous n'avions plus le droit d'être en colère.
Comme pour reprendre le flambeau de son grand-père, Dileka Mandela a créé une fondation qui milite pour l'émancipation de la jeunesse. C'est Born Free, c'est-à-dire né libre en démocratie.
Beaucoup d'entre eux n'ont pas de travail. Et à cause de cette frustration, ils se dirigent vers la drogue, la délinquance. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accepter que l'on part de très loin et agir maintenant, pour que les jeunes, dans 30 ans, ne se disent pas « nous avons finalement régressé ».
En ce 16 décembre, les Sud-Africains sont invités à s'engager sur le terrain dans leur communauté pour continuer ce travail de réconciliation au quotidien. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Il faut aussi laisser le temps faire son œuvre. Les militants qui se battent pour une Afrique du Sud plus égalitaire rappellent que la démocratie, finalement, n'a que 30 ans, qu'on ne change pas le quotidien de 60 millions de personnes en claquant des doigts et qu'il faudra encore des décennies de patience. Felicity Harrison est responsable de l'Institut pour la justice et la réconciliation.
C'est encore très incomplet aujourd'hui parce que la commission Vérité et Réconciliation n'a pas été créée pour être le début et la fin de la réconciliation. C'était simplement la première étape d'un long chemin. Quand l'apartheid a pris fin en 1994, le racisme et les inégalités n'ont pas disparu. Ça prendra beaucoup de temps et ça passera par des actions claires. De la même manière que le racisme a été institutionnalisé par la législation de l'apartheid, il faut trouver des moyens officiels de le briser. Nous ne pouvons pas juste attendre que tout ça disparaisse comme par magie. Les questions relatives à la terre, par exemple, n'ont pas été assez abordées. Cette dépossession massive des terres des populations noires pendant le colonialisme et l'apartheid, nous n'avons toujours pas progressé en termes de redistribution ou de compensation, ce qui pourrait permettre de réparer les blessures du passé.
Felicity Harrison à la tête de l'Institut pour la justice et la réconciliation. En Afrique du Sud, Johannesburg, où il est 8h44.
Et c'est la fin de ce journal. Merci Edouard Dupénoit.